France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité, sociologue et philosophe, a choisi d'évoquer le livre, peut-être le premier, que l'on donne à toute personne voulant se lancer dans la sociologie et que l'on devrait d'ailleurs conseiller à quiconque en a quelques préjugés sans pourtant la connaître. Un livre qui, à sa publication en 1895, a changé le visage de cette discipline en faisant des faits sociaux des choses avec leurs évolutions et leurs lois propres. Ce livre, c'est les règles de la méthode sociologique d'Émile Durkheim.
Émile Durkheim est né en 1858 et mort en 1917. Les ouvrages et les articles principaux qui imposèrent l'influence de ce rénovateur, et pourrait-on presque dire de ce fondateur de la sociologie française, sont antérieurs à 1900. La division du travail social paraît en 1893, les règles de la méthode sociologique en 1895, le suicide en 1897, c'est dire que Durkheim appartient bien au XIXe siècle et que, caractériser la fin de ce siècle, j'en parlais d'une œuvre aussi originale et impérieuse, serait passé sous silence un trait important de la physiologie intellectuelle de cette époque. Ce serait aussi se condamner à ne pas situer dans son élan initial, et donc à mal comprendre, le mouvement de pensée et de curiosité du temps présent en faveur des sciences sociales, ces sciences de l'homme, comme on dit justement aujourd'hui, et que la sociologie durkheimienne n'a pas peu contribué à faire reconnaître comme science à côté des sciences de la nature.
Vivre, c'est avant tout agir. Agir en bonté, pour le plaisir d'agir, et si toute existence, on ne peut se passer d'économie. S'il faut amasser pour pouvoir dépenser, c'est pourtant la défense qui est le but, et la défense, c'est l'action.
Bonjour Geoffroy de la Gannerie.
Bonjour.
Bienvenue dans Le Souffle de la Pensée. Vous êtes sociologue et philosophe. Vous êtes professeur à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages. Je cite les plus récents. Par-delà le principe de répression, 10 leçons sur l'abolitionnisme pénal et 3, une aspiration au dehors, éloge de l'amitié. Tous deux parus aux éditions Flammarion. Qu'est-ce que ça vous fait de prendre la parole après, est-ce que je peux dire, votre maître à penser, Émile Durkheim? C'est sa voix qu'on entendait, le seul enregistrement de sa voix de 1913.
Oui, c'est un enregistrement de 1913 et justement, moi j'aime beaucoup cet extrait parce qu'on voit quelque chose d'étonnant dans la pensée de Durkheim, c'est que très souvent on a l'impression comme ça d'un maître un peu du 19e siècle, un peu classique, un peu poussiéreux, peut-être un peu ennuyeux.
D'ailleurs, Georges Davy, la présentation qu'on a entendue qui date de 1957, qui est un sociologue, est assez dans ce style-là.
Absolument. Et en fait, dès qu'on lit Durkheim ou dès qu'on l'entend, c'est le seul extrait sonore qu'on connaît, on voit qu'il y a un univers de pensée un peu étonnant, un peu contre-intuitif, une forme d'inconnu vers lequel il va nous emporter, parce que dans cet extrait, il pose l'action de la morale. Qu'est-ce qui est moral dans une société? Et il s'oppose aux morales qu'on peut appeler utilitaristes, en pensant que ce qui compte dans la société, c'est l'intérêt, c'est ce qui fait du bien à l'autre, c'est ce qui serait intéressé ou économiquement important. Puis il va dire non, en fait, la morale, c'est pas du tout ça. La morale, c'est le superflu, la morale c'est le luxe, la morale c'est l'inutile, la morale c'est la dépense. Et donc on voit tout d'un coup une chose assez étrange, qu'est-ce que c'est d'associer la morale à la dépense, d'associer la morale à l'inutile, d'associer la morale au luxe, et tout d'un coup on se dit, bah là il y a un univers étrange de pensée qui est derrière lui. Et moi c'est vrai que c'est un auteur Durkheim que j'aime énormément, il n'y a pratiquement aucun livre que j'écris sans me poser d'abord comme question, qu'est-ce que Durkheim a écrit dessus,
et d'aller qu'est-ce voir qu'il en aurait pensé,
et qu'est-ce qu'il en a pensé, parce qu'il a tellement écrit et tellement pensé qu'il a souvent écrit sur pratiquement tout.
Mais quand je dis qu'est-ce qu'il en aurait pensé, ce serait même qu'est-ce qu'il penserait du sujet qui, moi, m'intéresse, c'est-à-dire la manière dont vous le prendriez en main.
Oui, appliquer des techniques de pensée, c'est-à-dire essayer d'appliquer des méthodes, justement, appliquer des instruments de pensée, appliquer des concepts à des objets. Et c'est vrai que c'est un auteur qui m'a toujours fasciné dès que je l'ai rencontré à 18 ans, parce que je pense qu'il y a vraiment dans sa pensée quelque chose qui rend la sociologie une discipline pas seulement descriptive, une discipline qui n'est pas seulement, comment pourrait-on dire, une forme d'ethnographie du monde social, mais une véritable critique, interrogation, et une ouverture vers une autre manière de penser qui nous impose ensuite des leçons politiques et éthiques.
Comment on le voit aujourd'hui, Émile Durkheim, en sociologie ?
Bah justement, on le présente un peu comme un précurseur de la sociologie. C'est-à-dire que justement, on
un
va
peu un comme peu... un Montesquieu.
Oui, ce qui est une manière à la fois de l'ériger comme un modèle, mais une manière de le neutraliser. Parce que justement, c'est un peu comme si on allait visiter un musée de lire Durkheim, et pas du tout de visiter un auteur vivant. Or, une des grandes parties de la sociologie de Durkheim, ça a été quand même une interrogation sur qu'est-ce que c'est que la sociologie. Qu'est-ce que ça veut dire étudier le monde social ? Et très souvent, dans la sociologie contemporaine, on a tendance à penser que faire de la sociologie, c'est étudier le monde, c'est le renseigner, c'est donner de l'information sur des zones inconnues, c'est faire proliférer les études. Et en fait, quand on lit les règles de la méthode sociologique, ou le livre d'après qui s'appelle Le Suicide, Durkheim, il dit, en fait, c'est pas du tout ça, la sociologie. Parce que la sociologie, elle naît quand on a trop de données. Elle vient d'un moment où, en fait, tout le monde étudie un objet, comme le suicide, comme la division du travail, comme le divorce, comme le crime. Et le sociologue, il se pose la question, est-ce que cette prolifération de données, elle nous éloigne pas, justement, d'une compréhension du monde ? Est-ce qu'elle nous éloigne pas des principes plus généraux à partir desquels on pourrait opérer une mise en évidence des phénomènes sociaux et de leur régularité ? Et que, par conséquent, faire de la sociologie, c'est découvrir ce monde qui échappe un peu à l'ethnographie, que le monde de la généralité, du fait social comme chose qui s'impose aux individus et pas comme fait précis du monde social, en quelque sorte.
Alors, quand il écrit les règles de la méthode sociologique, Durkheim est déjà professeur de sociologie.
De pédagogie, je crois même.
De pédagogie et de... d'ailleurs, ça veut dire quoi ? Parce que c'est vrai que je l'ai noté. Franchement, je l'ai noté. Je me suis fait une petite biographie de Durkheim.
Parce qu'en fait, comme très souvent dans l'histoire de la sociologie, les intellectuels qui ont produit des avancées en sociologie ont été en confrontation avec les sociologues de leur époque, comme Bourdieu l'a été, comme Lévi-Strauss l'a été. Et donc, les sociologues un peu connus de l'époque de Durkheim, c'était Spencer en Angleterre, c'était Comte, etc. Tarde, qui était professeur au Collège de France.
Qui ont beaucoup influencé Durkheim.
Ouais, enfin, qui est contre lesquels il s'est beaucoup défini, à part Comte avec qui il a vraiment une filiation.
Enfin, dans les règles de la méthode sociologique, on peut le dire, il cite énormément Spencer et Comte, et il n'est pas du tout d'accord avec leur méthode sociologique.
Exactement, il pense que c'est des méthodes trop spéculatives, il pense que c'est des méthodes qui pensent que le monde social peut être saisi à travers un repli sur soi et une introspection, alors qu'il faut une étude objective et statistique pour pouvoir objectiver des phénomènes qui échappent à la conscience, justement, et que c'est à ce moment-là que la sociologie pourra devenir une science au même niveau que la biologie ou que la physique, et c'est ça son grand modèle, hein. C'est-à-dire d'ériger le fait social au niveau du fait naturel, comprendre que les déterminismes sociaux sont aussi objectifs que les déterminismes naturel, qu'en gros les courants suicidogènes dans une société ou les courants homicides sont autant des forces sociales qui s'imposent à nous qu'un typhon ou qu'une maladie, et que donc on peut les étudier, essayer de les prévenir, mais on peut pas vraiment lutter contre eux une fois qu'ils sont en route. Et à partir de ce moment-là, il a mis en question, si vous voulez, les méthodes trop philosophiques, on peut dire de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il suffisait de méditer pour comprendre.
Il dit effectivement, dans les règles de la méthode sociologique, le problème c'est qu'on a soit l'histoire qui se perd dans le particulier, dans la diversité, soit la philosophie qui se perd dans l'excès de réalisme. Alors, je ne comprenais pas au départ ce terme, mais en fait, il veut dire dans l'excès presque d'idéalisme. En philosophie, on oppose réalisme et idéalisme, mais en fait, il faut l'entendre comme des philosophes qui sont repliés sur eux-mêmes et qui, en fait, avant de regarder le monde, vont avoir une grille de lecture qui est voilée par ce qu'il appelle des prénotions.
Exactement.
Et donc, il veut se situer entre ces deux courants-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour ça, Geoffroy de La Gannerie, que Durkheim s'est dit, à partir du début des années 1890, il a rédigé en 1892-94, ses parents en 1895, il s'est dit, on a besoin d'une méthode pour la sociologie, pour comprendre en fait à quoi ça sert, mais pour aussi comprendre en fait à quoi sert un sociologue. Question qui est encore d'actualité aujourd'hui.
Oui, en fait, l'opposition entre philosophie et histoire, ou ethnographie, ou études trop locales, elle peut se ramener à une opposition entre des études trop générales ou généralisantes et des études trop particularisantes. Et qu'en fait, la sociologie, c'est une discipline qui doit à la fois se méfier de la généralisation excessive qui va produire à travers des prénotions l'idée qu'en fait, tous les phénomènes sont les mêmes et obéissent à des lois toujours les mêmes, les lois de l'utilité, par exemple, chez Spencer, ou alors au contraire de dire non, tout est différent et il faut faire multiplier les études particulières sur tel cas.
On comprend plus du coup de quoi on parle.
Et donc, deux cas, on comprend pas des généralités plus précises, en tout cas, ou des cas plus précis. Si vous prenez l'exemple du suicide, par exemple, voilà une très belle étude dans laquelle il va dire à la fois, on peut pas dire que tous les suicides sont différents. Et il y a, dans le fait qu'il y a 8000 suicides, par exemple, aujourd'hui en France, ben, en fait, dans tous ces suicides-là, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Et dans ce qu'un ethnographe verrait comme des suicides différents, en fait, je peux dire qu'il y en a qui ressortissent à la même classe et qui sont les mêmes types de suicides. Mmh. Mais en même temps, je dois pas dire que tous les suicides sont les mêmes, comme si c'était, par exemple, la tristesse qui produisait le suicide et que tous les gens qui suicident sont tristes. Donc, c'est la tristesse qui expliquerait le suicide. Ça, c'est une généralisation abstraite. Et donc, la sociologie, elle essaye de reproduire des généralisations concrètes, c'est-à-dire de produire des nouvelles classes d'objets qui permettent à la fois de généraliser sans simplifier.
Et vous, quand vous l'avez découvert, qu'est-ce qui s'est passé, Geoffroy de La Gannerie? Qu'est-ce que ça vous a fait de découvrir ça? Est-ce que vous aviez envie déjà une sorte d'appétence pour les sciences sociales, mais plus, on va dire, sociologie? Est-ce que vous connaissiez, en fait, parce qu'on n'en fait pas vraiment, en fait, de la sociologie au lycée, sauf si on fait peut-être sciences économiques et sociales, mais enfin, c'est une filière qui n'existe plus en tant que telle aujourd'hui. Voilà, vous aviez quoi en tête? Ça vous a fait quoi? Pourquoi ça vous a frappé au point d'en parler aujourd'hui?
Bah, c'est vrai que moi, j'étais un produit du système scolaire français et donc avec toutes les zones d'ignorance qu'il organise. Et l'une des caractéristiques fondamentales du système scolaire français, c'est qu'on peut le traverser en entier sans jamais entendre parler de sociologie. On ne peut pas le traverser sans entendre parler du malade imaginaire ou de Voltaire, ça semblerait aberrant, mais on peut très bien passer toute sa scolarité sans avoir jamais lu un texte de Bourdieu, un texte de Durkheim, un texte de Max Weber.
Et donc, moi, j'arrive en philo, peut-être.
Oui, peut-être. Mais j'arrive en hippocagne, BL, donc ce sont des hippocagnes où il y a de la sociologie et de l'économie. Et en fait, on nous fait lire en introduction, comme très classiquement, les règles de la méthode sociologique. Et moi, c'est vraiment un effet de sidération, comme un monde vraiment tout nouveau qui s'ouvre à moi. Et moi, je me souviens très très bien, la chose qui m'a le plus frappé, c'est la démonstration éclatante de Durkheim, qui porte sur ce qu'il appelle la stabilité des faits sociaux. C'est-à-dire, il prend l'exemple des suicides, ou l'exemple des crimes, ou des cambriolages dans une société, même des morts, et il remarque que ces faits sont stables dans le temps, dans une époque. C'est-à-dire que dans une société donnée, vous avez chaque année un contingent de morts volontaires, comme il l'appelle, qui se répètent dans le temps et qui sont les mêmes d'une année sur l'autre. Et dit-il, c'est quand même une extraordinaire chose, la stabilité d'un certain nombre de faits sociaux, comme le nombre d'homicides par an dans une société qui se reproduit. Puisque, dit-il, si jamais c'était individuel, il y aurait aucune raison que ce soit prévisible. Ça dépendrait de contingences. Donc, parfois, il y en aurait beaucoup, parfois, il y en aurait très peu, parfois, il y en aurait plus dans certaines populations, parfois plus dans d'autres, etc. Si c'est individuel, par définition, c'est imprévisible, c'est variable, c'est contingent. Et pourtant, on observe qu'un certain nombre de faits ont une stabilité dans le temps, alors que les individus qui les accomplissent ne sont pas les mêmes, par définition pour le suicide, mais aussi pour l'homicide, que la population change. Il y a des gens qui migrent, il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui meurent. Donc, les populations changent. Les individus changent, c'est pas les mêmes individus, et pourtant le fait social est stable.
C'est ça, le c'est même ça qui vous frappe.
C'est extraordinaire, parce que ça veut dire que si jamais c'est stable et que ça perdure dans le temps, c'est que ça n'obéit pas et que ça n'appartient pas aux individus, ça appartient à quelque chose qui échappe aux individus, qui lui est stable dans le temps, et cette chose stable, c'est ce que Durkheim appelle le milieu social. Autrement dit, il existe dans la société des faits qui ont une stabilité, une régularité, qui fait que l'unité pertinente pour les comprendre n'est pas l'individu, mais le monde social, et qu'il existe dans la société des taux sociaux du suicide, des taux sociaux d'homicide, qui renvoient à des régularités profondes et qui s'imposent aux individus, beaucoup plus que les individus qui en sont l'auteur. Moi, c'est toujours été un mystère pour moi, la stabilité sociale des taux, du nombre de cambriolages par an. Mais c'est vrai, ça veut dire que c'est stable.
Ouais.
Ça veut dire que c'est la société
qui
le produit.
C'est ça qui vous fascine?
Complètement. Ça veut dire que même, il n'y a pas en France 800 homicides. Il ne vous dirait pas qu'il n'y a pas 800 homicides par an, il n'y a pas un homicide, puis un, et la somme, ça fait 800. Il y a la société qui produit le fait qu'il y aura 800 homicides et ça tombe sur 800 personnes. C'est comme ça qu'il faut le penser. C'est-à-dire que le taux social est plus réel que les suicides individuels et précède même les suicides individuels ou les meurtres individuels, et que donc c'est le milieu social qui produit le nombre d'homicides qu'il y aura par an. Vous savez, je le cite dans mon livre sur l'abolition pénale, en plus on peut radicaliser cette analyse, 90% des homicides en France se produisent dans les fractions précarisées des classes populaires. Et c'est vrai dans tous les pays qui comptent. Donc, et on sait que 90% des victimes appartiennent aussi à ces milieux précarisés des classes populaires, et 3/4 des victimes connaissaient leur assassin. Donc ça veut dire que c'est une production d'un milieu, l'homicide, beaucoup plus que les individus qui tuent. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez magnifique, c'est-à-dire, enfin magnifique au sens de, c'est pas vous bien sûr, mais c'est quelque chose d'assez...
Magnifique intellectuellement.
Oui, parce que ça veut dire qu'il existe des faits sociaux qui sont aussi réels que des faits naturels, c'est-à-dire qu'ils s'imposent aux individus.
Une loi comme ça qui s'impose aux individus. Mais qu'est-ce qui vous frappe le plus, Geoffroy de La Gannerie? L'idée de stabilité et de régularité, ou le fait que vous croyez, à 18 ans, romantique que vous étiez, qu'on se suicidait spontanément, librement? C'est-à-dire que tout à coup, vous comprenez en fait que l'individu n'est pas libre et qu'en fait, des choses s'imposent à lui?
Alors, on pourra revenir sur la question de quelle est la place de la liberté dans une pensée durkheimienne.
Oui, on va parler d'ailleurs de l'individu, parce que c'est vraiment un nœud quand même du problème, même de la sociologie. On réduit souvent sociologie versus individu, mais...
Justement, le décalage que produit Durkheim, c'est de dire, En fait, si jamais le taux social des suicides appartient à la société, alors très souvent, les raisons pour lesquelles les gens se suicident ne sont pas les causes pour lesquelles ils se suicident. Très souvent, quand on a une intuition du suicide, on va penser que les gens se suicident parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils ont un divorce, parce qu'ils ont perdu leur travail, parce qu'ils sont ruinés, parce qu'ils sont seuls, etc.
On dira aussi aujourd'hui, on parlera de santé mentale, par exemple.
Exactement, et donc on aurait tout un ensemble comme ça de petites causalités individuelles, d'accidents individuels qui arriveraient à des individus et qui les détermineraient à se tuer. Et Durkheim va dire, en fait, ces phénomènes individuels, comme ils se rencontrent aussi chez des individus qui ne se suicident pas, il y a des individus qui vont plus ou moins mal vivre le fait de quitter leur travail ou le fait de quitter leur partenaire ou le fait d'être en faillite, etc. En fait, ce n'est pas parce qu'il y a cette occasion qui fait qu'ils se suicident, c'est parce qu'ils sont déterminés à se tuer, qu'ils vont constituer cette occasion comme la cause qui va faire qu'ils se suicident, et la délibération qu'ils vont prendre de se suicider, elle est en fait seulement une ratification de quelque chose qu'ils étaient de toute façon déterminés à faire. Autrement dit, les causes sociales sont plus intéressantes que les occasions particulières qui se présentent aux individus, et donc on n'est pas maître de ce qu'on fait, et on n'a pas conscience des raisons pour lesquelles on agit.
C'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire, mais on va rentrer d'ailleurs dans les détails, parce que vous avez choisi deux textes, Geoffroy de la Gannerie, dans les règles de la méthode sociologique sur le crime et dans le suicide, et bien sur le suicide. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on voit bien en fait que la question, ce que vous dites, c'est presque inaudible. Enfin, vous voyez, quand vous dites, il y a un taux de suicide, quoi qu'on fasse, quelles que soient les politiques qu'on mène, il y aura un taux de suicide qui sera de temps, ou un taux d'homicide de temps. Et même d'un point de vue psychologique, individuel, vous me dites que je suis déterminée à me suicider. Mais c'est une idée insupportable. C'est comme si, en fait, j'avais une sorte de destin qui s'imposait à moi.
Alors, en fait, c'est là qu'il y a un désaccord. C'est que ça ne réduit pas l'espace de la politique, ça l'oriente autrement. C'est-à-dire que ce que veut nous dire Durkheim, c'est que si jamais vous avez la preuve que c'est des milieux sociaux qui favorisent des courants homicides ou des courants suicidogènes, alors effectivement, étant donné que quand la force est constituée, vous pourrez un peu rien faire. Un peu comme quand vous avez un typhon qui s'approche de vous ou de votre maison, vous avez beau vouloir que le typhon change de trajectoire. Si jamais il est déterminé à aller vers votre maison, vous aurez dû avoir du libre arbitre, vous aurez dû vous sentir libre, vous aurez beau prier, le typhon s'approchera de votre maison et ces lois de la physique, elles s'imposent à vous. Mais de la même manière que les lois de la physique sont aussi ce qui permet aux physiciens d'agir et de prendre des décisions, ce qui permet de faire des fusées, ce qui permet de faire des centrales nucléaires, ce qui permet de faire rouler des trains, parce que la causalité, c'est pas nécessairement quelque chose qui s'oppose à l'action, mais ça peut être des conditions de l'action et des conditions pour pouvoir agir sur le monde, puisque justement, on peut prévoir les effets. Durkheim nous dit, par contre, on peut avoir des politiques, justement, dans lesquelles on va agir pour diminuer les taux sociaux et pour diminuer les courants qui favorisent non telle ou telle pratique, et c'est en agissant sur le milieu social qu'on transforme les comportements, beaucoup plus qu'en agissant sur les individus. On sait, par exemple, dans les statistiques sur les homicides, hein, où il y a des statistiques très longues, très connues maintenant, qui ont été faites, que quand vous voulez référer l'activité criminelle d'une société à son activité répressive, ça ne marche pas du tout. Alors qu'à l'inverse, vous avez des statistiques très robustes de corrélation entre des politiques sociales ou des politiques de liberté individuelle et de diminution de la violence interpersonnelle. Donc quand vous changez les structures sociales et les modes d'existence des gens, bah les gens se tuent moins ou les gens se suicident moins. Donc ça ouvre un espace de la politique non naïve et non irénique ou non volontariste comme ça, mais des politiques réelles basées sur la connaissance. Et quand vous disiez que c'était inaudible, bah justement c'est une question qui m'intéresse, c'est comment nos sociétés fabriquent l'inaudibilité de la sociologie et nous condamnent alors à l'impuissance. C'est l'un des problèmes.
Vous trouvez que justement on devrait relire Durkheim parce qu'il redéfinit aussi, c'était son but, c'est-à-dire le rôle du sociologue, donc pas seulement quelque chose de descriptif, mais aussi quelque chose de prescriptif, d'écrire ce qui doit être. Et comment vous envisagez-vous, en fait, que la sociologie, elle soit un peu à la fois validée, c'est-à-dire il y a des parutions de sociologues, vous êtes invité en plateau, mais en même temps, vous êtes presque délégitimé scientifiquement?
Je pense qu'il y a une question intéressante, il y a un courant de recherche intéressant qui se développe en sciences sociales ces dernières années, qui s'appelle l'épistémologie de l'ignorance, qui réfléchit à comment est-ce que l'ignorance est organisée dans nos sociétés. C'est-à-dire le fait que le système scolaire ou le système médiatique, c'est pas tellement qu'il ignore des choses, c'est qu'il fait en sorte que des savoirs ne soient pas diffusés ou fait en sorte que des connaissances soient moins légitimes que d'autres. Et je pense que, de fait, l'une des contributions du système scolaire contemporain à l'épistémologie de l'ignorance, c'est qu'il va favoriser la culture littéraire beaucoup plus que la culture sociologique ou la culture scientifique. Et moi, je pense qu'effectivement, l'une des réformes possibles, par exemple, c'est de faire en sorte qu'en sixième, on lise un peu Durkheim, on regarde des tableaux statistiques. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile à lire ça que de lire un roman, je vous garantis. Au moins, on comprend tout, c'est explicite, c'est très clair.
Vous n'avez pas tort, parce que parfois, on lit des romans au collège, on les lit tellement premier degré qu'en fait, toute une partie nous échappe, alors que finalement, un texte savant, on pourrait dire, comme Durkheim, c'est premier degré, hein, il faut le comprendre au pied de la lettre.
Oui, et puis la résistance à la sociologie, elle vient aussi du fait que, de fait, à partir du moment où le savoir sociologique est un savoir qui pense en termes de causalité sociale, de responsabilité collective, de nécessité d'avoir une pensée supérieure aux prénotions, bah, il a un rapport à la gauche et très souvent au socialisme. Durkheim disait qu'il y avait un rapport entre la sociologie et le socialisme. On connaît aussi, bien sûr, les textes de Bourdieu sur le rapport entre la sociologie et la critique du monde social, les textes de l'école de Francfort sur la vérité comme concept oppositionnel. Donc vous avez dans la sociologie un savoir qui prédispose à mettre en question un peu les politiques de droite, les politiques individualistes, les politiques libérales, les politiques de répression pénale pour un autre type d'organisation sociale. Et donc l'hostilité à la sociologie, c'est avant tout une hostilité à la pensée de gauche.
On va écouter tout de suite un premier extrait des règles de la méthode sociologique d'Émile Durkheim.
Les faits fondamentaux de la criminologie se présentent à nous sous un aspect entièrement nouveau. Contrairement aux idées courantes, le criminel n'apparaît plus comme un être radicalement insociable, comme une sorte d'élément parasitaire de corps étranger et inassimilable introduit au sein de la société. C'est un agent régulier de la vie sociale. Le crime, de son côté, ne doit plus être perçu comme un mal qui ne saurait être contenu dans de trop étroites limites. Mais bien loin qu'il y ait lieu de se féliciter quand il lui arrive de descendre trop sensiblement au-dessous du niveau ordinaire, on peut être certain que ce progrès apparent est à la fois contemporain et solidaire de quelques perturbations sociales. C'est ainsi que jamais le chiffre des coups et blessures ne tombe aussi bas qu'en temps de disette. En même temps, et par contre-coup, la théorie de la peine se trouve renouvelée, ou plutôt à renouveler. Si en effet le crime est une maladie, la peine en est le remède et ne peut être conçue autrement. Aussi, toutes les discussions qu'elle soulève portent-elles sur le point de savoir ce qu'elle doit être pour remplir son rôle de remède. Mais si le crime n'a rien de morbide, la peine ne saurait avoir pour objet de le guérir, et sa vraie fonction doit être cherchée ailleurs.
Lu par Nicolas Berger, des règles de la méthode sociologique de Durkheim. Nous sommes au chapitre 3 dans les règles relatives à la distinction du normal et du pathologique. On y retrouve, Geoffroy de la Gannerie, l'idée que vous énonciez et qui vous a frappé lors de votre découverte de ce texte à 18 ans en Hippocagne, à savoir quand même que Durkheim nous dit ici qu'il y a de la criminalité, il y a un criminel et ça n'est pas un agent pathogène mais régulier de la vie sociale. Mais j'aimerais, avant qu'on décortique cette idée qui est quand même éblouissante, pas dans le sens génial, mais une idée intellectuelle géniale.
Contre-intuitive.
Ouais, voilà, contre-intuitive et qui est frappante en ça. Avant d'en venir à cet extrait-là, quand même, sur le crime, Durkheim nous présente dans les premiers chapitres ce qu'est un fait social. Et je pense qu'avant de savoir ce qu'est un fait social normal et un fait social pathologique, est-ce que vous pourriez nous dire, Geoffroy de la Gannerie, ce que Durkheim dit dans les deux premiers chapitres essentiels sur le fait social? C'est quoi sa spécificité?
Bah, c'est un peu comme j'ai parlé sur le typhon, un fait social c'est quelque chose d'extérieur aux individus et qui s'impose à eux. Donc c'est pas un fait qu'on peut se représenter par l'opinion, on peut avoir des croyances sur qu'est-ce que c'est que le crime, qu'est-ce que c'est pas que le crime, qu'est-ce que c'est que la religion, qu'est-ce que c'est pas la religion, etc.
C'est pas une enquête
Durkheim
d'opinion.
Durkheim constate qu'il existe dans la société tout un ensemble de choses qui s'imposent à nous et que nous avons beau vouloir ou pas qu'elles se passent, elles se passeront d'une certaine manière et elles nous contraignent comme individus à devoir y obéir. Il prend l'exemple de la langue, vous pouvez pas choisir la langue que vous parlez, il prend l'exemple de la religion. Et par exemple de la monnaie, par exemple des institutions. Et donc, en quelque sorte, d'être un individu, c'est être confronté au fait qu'un certain nombre de choses s'imposent à vous et vous contraignent dans votre être pour devoir faire un certain nombre de choses. Et ces faits qui sont donc réels, mais qui ne sont pas individuels puisqu'ils s'imposent aux individus, et ben ils ont un autre substrat que l'individu. Et ce substrat, c'est la conscience collective.
Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ces faits sociaux que le sociologue va observer, va, comment dire, catégoriser? Comment il va procéder, le sociologue? Comment il va le livrer aussi, à la fois au public ou, en fait, à ses pairs? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va en faire une fois que Durkheim nous dit il y a la criminalité, il y a tel fait social, normal ou pathologique? Qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce que c'est grave de se rendre compte, par exemple, que la criminalité est un fait social normal?
Alors oui, on pourra revenir sur la distinction normale et pathologique, oui, qui est vraiment fondamentale dans la pensée durkheimienne. D'abord, on compte. Et c'est vrai que Durkheim, c'est d'abord celui qui a dit l'instrument de la pensée sociologique. En gros, c'est pas l'ethnographie, c'est pas la philosophie, c'est pas la spéculation, c'est la statistique. À vous de vous poser une question sur quelle est votre opinion sur l'école, quelle est votre opinion sur le travail, quelle est votre opinion sur la mort, quelle est votre opinion sur le crime. Durkheim, il dit tout ça, ça n'a pas d'importance. Ce sont des prénotions, c'est des représentations incorporées et vous devez jamais penser à partir de ça. Si vous voulez objectiver des régularités sociales et comprendre comment elles fonctionnent, la première chose que vous faites, c'est que vous comptez, tout simplement. Vous allez voir qui réussit dans quelle filière scolaire et pas d'autres, c'est ce qu'a fait Bourdieu.
Qui va à l'école, qui arrête l'école à tel âge.
Qui va à l'opéra, qui va pas à l'opéra, oui, qui préfère aller au foot qu'à un concert d'opéra, etc.
Mais on doit bien avoir une intuition, comptez, non?
Et c'est c'est l'objectivation statistique de la régularité d'un certain nombre de phénomènes qui vous fait accéder à quelque chose qui échappe aux individus et qui a sa loi propre, qui s'appellera un fait social. Et c'est ça qu'il fait par rapport à la notion de crime, puisqu'il va dire, en fait, on a une prénotion du crime comme quelque chose de négatif dans la société.
Comme une maladie sociale.
Comme quelque chose qui est une maladie qu'il faut conjurer. Ce qui veut dire qu'on a un idéal implicite, qui est l'idéal du punitivisme, l'idéal très souvent des idéologies réactionnaires, qu'une société idéale, c'est une société sans crime. Et qu'il faudrait qu'une société soit sans crime, et c'est un peu l'idéal tacite de tout le monde, qu'une société serait mieux si elle était sans crime. Et ce qui est très beau dans la pensée durkheimienne, c'est qu'il va dire, moi je vais tout simplement compter et regarder comment fonctionnent toutes les sociétés connues, je vais faire des statistiques des crimes, et ce que je constate, c'est qu'il n'y a aucune société dans laquelle il n'y a pas de crime qui se produise avec une certaine régularité, avec une certaine stabilité dans le temps. Et si jamais toute société qui a des règles à des gens qui transgressent les règles, si jamais le crime fait partie du fonctionnement permanent d'une société, alors j'aurais beaucoup de mal à définir ce phénomène comme pathologique. Je vais le considérer au contraire comme un phénomène normal. Et il prend la métaphore de la maladie. Il dit c'est un peu comme un individu normal. C'est normal qu'il soit parfois malade. D'ailleurs, ça fait partie de la fabrication de son immunité, ça fait partie de la fabrication de son existence, ça fait partie du fait qu'il a des rencontres sociales, ça fait partie du fait qu'il a une vie sociale et donc il est parfois malade. Et en fait, la maladie peut pas être définie comme l'antagonisme de la normalité pour un individu. C'est normal d'être parfois malade. Ce serait même plutôt pathologique d'être jamais malade. Bah, de la même manière, pour une société, avoir du crime, c'est quelque chose de normal. Et puis, il va pousser, comme c'est Durkheim, il a toujours cette petite phrase en plus qui est une provocation de pensée. Et c'est pour ça que je l'aime bien, parce qu'il s'arrête jamais à la chose un peu triviale. Il va toujours dire en plus, il va dire non seulement c'est normal, mais c'est sain qu'il y ait du crime dans une société. Et c'est malsain quand il n'y a pas de crime dans une société, ou quand il n'y a pas assez de crime dans une société.
C'est exactement ce qu'on entend dans le texte. Il dit que ce progrès apparent, c'est-à-dire le progrès qu'on croyait être un progrès de disparition du crime, est en fait solitaire d'une perturbation sociale.
Oui.
Mais c'est même plus dire que c'est normal ou sain. C'est que Durkheim, et on n'a pas fait lire ce passage-là, mais juste avant, il faut que les auditeurs et auditrices, s'ils ont les règles de la méthode sociologique, lisent le paragraphe d'avant, oui, c'est sur Socrate.
Oui.
Bon, Durkheim, c'est quand même un petit malin, parce que en gros, il nous dit non seulement le crime est normal, sain, mais peut-être bon, car en fait, il peut annoncer des changements, en fait, de société. Mais c'est quand même différent de prendre Socrate et de prendre un violeur, vous voyez?
Bien sûr.
Donc il y a quand même une hiérarchie à faire, et j'emprunte ce terme à dessein, parce que on peut pas dire comparer tous les criminels ne sont pas Socrate.
Absolument. Et ce qu'il faut, c'est toujours penser en sociologie de manière spécifique et de pas généraliser. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes du punitivisme, c'est qu'on dit le crime,
ouais,
et on a la même catégorie pour penser aussi bien Socrate qu'un féminicide, pour penser par exemple Jacqueline Sauvage qui tue son mari après des dizaines d'années de maltraitance, et un homme qui bat sa femme et qui la tue. Donc évidemment, le problème du punitivisme, c'est qu'il dit homicide pour des choses qui sont absolument différentes. Donc j'attire l'attention sur le fait que je suis absolument d'accord avec ça, et que la généralisation peut empêcher de penser des cas singuliers. Mais si jamais on va sur l'idée de Durkheim avant peut-être de la nuancer, je pense que l'idée qu'il a quand même intéressante, c'est de dire une société sans crime, c'est une société de contrôle total et de surveillance mutuelle totale. Mmh. Il perçoit le criminel comme un original, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui s'écarte de la norme collective, qui a une forme de propriété individuelle différente de la propriété moyenne, en quelque sorte, et qui est la contrepartie d'une société qui surveille pas tout le monde, qui ne norme pas toutes les consciences à la conscience collective, qui n'est pas une société de contrainte totale dans laquelle il y a de la liberté. Et s'il y a de la liberté, il y a des originaux, il y a des hérétiques, et puis il y a des gens qui mettent en question les normes par des activités criminelles. Ce qui fait qu'à l'inverse, une société sans crime serait une société d'autocontrôle ou d'atrophie de la vie sociale, c'est-à-dire de surveillance mutuelle extravagante.
Voire totalitaire.
Qui ne serait pas une utopie. Et donc totalitaire.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est un exemple qui prend, qui est intéressant, qui est que moi j'ai pris par contre, mais des sociologues durkheimiens dont je me suis inspiré, qui est sur la criminalité féminine, qui est un cas très intéressant, parce que très souvent, et ça c'est vrai en France, mais c'est vrai dans tous les pays, vous savez que la criminalité féminine est très inférieure à la criminalité masculine, qu'on a en France entre 3 et 4% de femmes en prison, donc c'est 97% des hommes, et qu'il n'y a qu'un seul délit que les femmes commettent plus que les hommes, c'est les vols à l'étalage dans les supermarchés, parce que c'est très souvent pour voler de la nourriture ou des habits pour leurs enfants, mais le reste, les hommes sont toujours extravagamment surreprésentés dans les crimes violents, dans les crimes de droit commun, etc. Comment est-ce qu'on analyse ça? Vous avez eu des travaux féministes, par exemple, qui vont dire, il y a un coup de la virilité ou il y a un problème dans l'agressivité masculine et il faudrait prendre modèle un peu.
La conception de la virilité est fondée sur la transgression, sur la force.
Et qu'il faudrait prendre modèle un peu sur les comportements féminins pour changer un peu les comportements des hommes. Puis il y a des sociologues durkheimiens dans les années 90 qui ont fait une très belle étude sur la criminalité féminine et qui ont dit, en fait, l'une des explications de la faible criminalité féminine, c'est parce que les femmes, étant donné qu'elles vivent dans des sociétés de domination masculine, ont des existences qui sont, comme ils disent, sursocialisées et surcontrôlées. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui pèse sur les femmes beaucoup plus grand que sur les hommes, en termes de surveillance de avec qui elles sortent, en termes d'incapacité à être seules dans l'espace public, en termes de contrôle par leurs parents ou par leurs frères ou par leur père, de qui elles voient, en termes d'autocontrôle même des femmes par rapport à l'expérience de la liberté individuelle, etc. Et qu'en fait, la conséquence d'avoir des vies sursocialisées et surcontrôlées a pour conséquence qu'elles ont des vies moins libres et donc qu'elles produisent moins de crimes, parce qu'en fait, elles sont plus contrôlées que les hommes. Et donc, c'est un effet de la domination masculine, la faible criminalité féminine, beaucoup plus qu'un effet d'une forme de nature féminine qui serait plus douce et plus dans le care. Et par conséquent, il faudrait voir la faible criminalité féminine comme un fait pathologique, comme un phénomène de contrôle social extra vagant qui pèse sur les femmes et pas comme un phénomène sain qu'il faudrait ratifier.
Alors, quelle est la différence, Geoffroy de La Gannerie, entre un fait social normal et un fait social pathologique? On a bien compris que c'était pas une question de morale, c'est-à-dire qu'on dit pas que le crime est bon, on dit pas que le crime, on doit forcément...
De toute façon, quoi qu'on dise, il s'en produit.
Voilà,
c'est un principe de Durkheim, c'est que vous avez beau dire le crime c'est pas bien, vous avez beau faire la morale aux gens, vous avez beau faire des peines, de toute façon les gens produisent des crimes. Vous avez beau faire la peine de mort aux États-Unis, vous avez 6 fois plus proportionnellement d'homicides qu'en France, donc on sait que c'est pas par des déclarations qu'on change les comportements des gens, et on a beau dire des choses, les gens font des choses.
Mais alors ça c'est vraiment frappant, parce que ce soit du point de vue du crime, mais on pourrait dire aussi du point de vue de la toxicomanie, on est encore dans un rêve politique de d'éradication du crime, d'éradication de comportements d'addiction. Durkheim nous dit non, en fait, il faut arrêter de vouloir éradiquer ça comme un mal, mais au contraire, les prendre comme des phénomènes sains, c'est-à-dire sains non pas pour les individus qui se droguent par exemple, mais sains parce que c'est une régularité sociale. Voilà. Néanmoins, qu'est-ce que c'est en regard alors un phénomène qui serait pathologique? C'est un phénomène qui est accidentel, un phénomène qui est exagéré ou sous-estimé, ou un phénomène en fait qui n'apparaît que de temps en temps? C'est quoi en regard d'un phénomène?
Exactement. Si on se situe d'un mouvement purement statistique, et c'est pour ça que c'est intéressant comme exercice mental le durkheimisme, parce que dès qu'on pense au crime, dès qu'on pense au suicide ou à la drogue, etc., on a évidemment des envies que ça soit pas le cas. On a envie qu'il n'y aurait pas. Mais si on pense à un niveau sociologique, tout d'un coup, on va accéder à un univers de pensée un petit peu différent. On doit suspendre un peu ces jugements spontanés. Parce que, notamment, et c'est une phrase que Durkheim pourrait dire, c'est que le fait qu'il y ait du crime dans une société dont vous pouvez souffrir comme victime à un moment, par exemple un cambriolage, peut aussi être la contrepartie de liberté dont vous profitez dans d'autres aspects de votre vie. C'est-à-dire le fait qu'on vive pas dans une société policière, le fait qu'il n'y ait pas des caméras de surveillance partout, le fait qu'il y ait des libertés individuelles, ben ça peut vous donner des avantages dans votre vie comme personne, à plein de d'égards. Et puis ça peut avoir comme contrepartie négative, oui, qu'il y a des gens qui font des cambriolages, mais vous pouvez pas scinder les deux. C'est-à-dire que si jamais vous mettiez en place une politique d'éradication du cambriolage, ben en fait vous en pâtiriez même vous comme victime dans d'autres aspects de votre vie. Et la vie sociale, elle est dynamique, elle est complexe. Elle est subtile, elle ne doit pas être simplifiée comme on a tendance à le faire. Et alors pour Durkheim, c'est très simple, en l'occurrence, il pense la sociologie comme une médecine. Ça, je pense que c'est quelque chose qui l'a beaucoup influencé, c'est-à-dire de penser qu'en fait, le sociologue, c'est le médecin de la société et il doit trouver des remèdes quand il y a des phénomènes pathologiques et donc avoir des critères comme le médecin pour savoir qu'est-ce que c'est qui est maladif et qu'est-ce que c'est qui est normal dans un corps social. Et Durkheim, il a un raisonnement à ce moment-là tout simple, il dit la pathologie, c'est l'excès ou le défaut. C'est-à-dire, en fait, la normalité, c'est la stabilité d'un taux. Donc, toute société va produire un certain nombre de crimes, va produire un certain nombre de suicides. Ça, c'est normal, vous pouvez rien y faire. Mais par contre, vous avez tout d'un coup des moments où il va y avoir un excès ou un défaut d'un certain nombre de ces phénomènes. Vous allez avoir tout d'un coup une envolée du nombre de suicides ou une envolée du nombre de divorces, qui pour Durkheim est un indicateur de pathologie, ce qui n'est pas forcément le cas, mais pour lui en tout cas. Vous pouvez avoir un excès tout d'un coup de choses, ou alors un défaut, au contraire. Et là, vous comprenez que le milieu social dysfonctionne, qu'il y a un problème dans la société. Et donc, il faut trouver des nouvelles mesures politiques pour reconduire des cadres sociaux différents.
Mais alors, à l'inverse, une idée comme il y a de plus en plus de diplômés. Est-ce qu'il faut le voir comme un fait social pathologique, c'est-à-dire qu'il y aurait une régularité d'un certain nombre de diplômés, alors même qu'on peut trouver ça être une très bonne chose? Ou est-ce qu'il faut au contraire y voir le début aussi d'un changement de société? C'est-à-dire qu'on peut être aussi pris dans un fait qui nous semble pathologique, mais qui en fait est annonciateur d'un changement à venir?
Oui, absolument. Alors, de fait, parfois, quand il y a des changements dans les statistiques, pour Durkheim, ça peut être aussi l'indicateur que la morphologie sociale est en train de se transformer.
Alors, voilà un autre concept, la morphologie sociale.
Et qu'une nouvelle morale est en train d'apparaître, et donc il ne faut pas voir nécessairement des changements statistiques toujours comme des phénomènes pathologiques, il faut les référer à la morphologie sociale. S'il y a une morphologie sociale donnée, vous avez tout d'un coup une variation statistique très forte, alors vous objectivez un phénomène pathologique. Si au contraire vous voyez que c'est concomitant d'un changement de la morphologie sociale, alors vous pouvez penser que vous êtes en train d'être dans une société qui crée une nouvelle morale, qui crée une nouvelle organisation, et là vous n'allez pas le déterminer comme un phénomène pathologique.
Mais qu'il a
par
créé...
exemple, je prends un exemple, ouais. Sur l'augmentation des diplômes, moi, pour les augmentations du suicide, pour reprendre Durkheim, il constate qu'à un moment dans la société, on a une augmentation du suicide qui est concomitante avec l'augmentation de l'instruction. C'est-à-dire que c'est en même temps que se déploie l'augmentation de l'instruction et de la fréquentation du système scolaire et qu'on a une augmentation des suicides. Et Durkheim pourrait dire, a priori, on pourrait donc penser qu'il y a un phénomène pathologique qui est à l'œuvre là, puisque le taux social des suicides des diplômés augmente. Mais en fait, va dire Durkheim, il y a un phénomène commun qui lie ces deux phénomènes, c'est l'affaiblissement de l'intégration religieuse et de la socialisation par la religion, des croyances religieuses. La croyance religieuse, quand elle diminue, elle libère l'individu et elle produit une soif d'instruction plus grande et donc un rationalisme plus grand. Mais ce rationalisme a aussi pour un effet une forme d'isolement par rapport aux communautés religieuses, d'isolement par rapport au sens qu'elle donnait à la vie et qui produit plus de suicides. Mais à ce moment-là, l'augmentation du suicide pour Durkheim, elle n'est pas un phénomène pathologique, mais plutôt même un progrès, parce qu'elle signe la naissance d'une société plus individualiste et moins soumise au traditionnalisme.
Alors, il faut aussi attirer l'attention dans le texte qu'on a entendu sur la théorie de la peine. Vous avez travaillé là-dessus, Geoffroy de Laganerie. C'est pas pour rien que vous nous avez indiqué ce texte, je pense. Vous avez travaillé sur l'état pénal. Durkheim nous dit dans ce texte, comme en fait le crime n'est pas une maladie, est un fait social normal, il ne faut pas le voir comme un phénomène à éradiquer. Et donc, il ne faut pas punir ce phénomène. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors déjà, c'est intéressant de dire, puisque le crime est normal, la peine ne peut pas avoir pour fonction de lutter contre le crime, parce qu'on ne peut pas avoir pour fonction de lutter contre quelque chose de normal. Donc ça, c'est l'intuition fondamentale de Durkheim.
Mais on ne peut pas laisser faire non plus.
C'est que donc la fonction du crime, la fonction de la peine n'est pas de punir le crime. Et Durkheim va dire quelque chose d'étonnant. Il dit deux choses étonnantes dans ses textes. D'abord, il va dire, en fait, il y a quelque chose d'une antinomie morale dans le phénomène de la peine, puisqu'on veut condamner le fait que quelqu'un ait blessé quelqu'un en blessant quelqu'un. Et déjà, la peine, elle est toujours un peu autodestructrice comme phénomène moral, en termes de philosophie morale, puisque comment vous pouvez prétendre moraliser une société en condamnant le fait d'agresser quelqu'un, en agressant quelqu'un, en l'enfermant, en le mutilant, en l'arrêtant, etc. Et déjà, la peine, c'est une théorie qui est problématique du point de vue de son organisation interne et de son argumentation interne. Et puis, Durkheim va dire une autre chose intéressante, c'est que la peine, en fait, puisqu'elle ne lutte pas contre le crime, à qui elle s'adresse? À quoi ça s'adresse, la peine? Et Durkheim va dire, en fait, la peine, elle s'adresse aux honnêtes gens. Elle ne s'adresse pas aux criminels. La peine, elle est là, et le procès est là, en quelque sorte, pour réinstaurer la norme et pour redire la condamnation de la société à un certain nombre d'actes. Et en fait, c'est aux honnêtes gens qu'on s'adresse en disant, c'est pas parce que cette personne a transgressé la norme que cette norme n'existe pas. Et on rassure la société sur ces normes collectives à travers la figure du procès et de la condamnation. Et dit-il à ce moment-là, le fait qu'on blesse quelqu'un en le punissant est un simple contre-coup de la peine. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire. C'est juste la manière dont, dans nos sociétés, on a trouvé une manière de proclamer publiquement la condamnation commission d'un acte en blessant quelqu'un, mais après tout, c'est un contre-coup. Mmh. C'est pas la fonction centrale de la peine, et c'est ce qui fait que moi, j'ouvre dans mon livre sur l'abolitionnisme pénal l'idée de qu'est-ce que ça voudrait dire concevoir des phénomènes de réaction au crime, parce qu'il faut bien sûr dénoncer un certain nombre de crimes et mettre en question un certain nombre de crimes.
Ouais, il s'agit pas de laisser faire. Bien c'est pas entendu. Une alternative, c'est pas.
Mais est-ce qu'on pourrait les déconnecter de la problématique de l'infliction de la souffrance à quelqu'un? Et c'est là qu'on ouvre un champ de pensée que Durkheim lui n'ouvre pas. Bien sûr, on peut pas tout ouvrir quand on est un intellectuel de l'abolitionnisme pénal.
Ce n'est pas par métaphore qu'on dit de chaque société humaine qu'elle a pour le suicide une aptitude plus ou moins prononcée. L'expression est fondée dans la nature des choses. Chaque groupe social a réellement pour cet acte un penchant collectif qui lui est propre et dont les penchants individuels dérivent, loin qu'il procède de ces derniers. Ce qui le constitue, ce sont ces courants d'égoïsme, d'altruisme ou d'anomie qui travaillent la société considérée, avec les tendances à la mélancolie langoureuse ou au renoncement actif ou à la lassitude exaspérée qui en sont les conséquences. Ce sont ces tendances de la collectivité qui, en pénétrant les individus, les déterminent à se tuer. Quant aux événements privés, qui passent généralement pour être les causes prochaines du suicide, ils n'ont d'autre action que celle que leur prêtent les dispositions morales de la victime, écho de l'état moral de la société. Pour s'expliquer son détachement de l'existence, le sujet s'en prend aux circonstances qui l'entourent le plus immédiatement. Il trouve la vie triste parce qu'il est triste. Sans doute, en un sens, sa tristesse lui vient du dehors, mais ce n'est pas de tel ou tel incident de sa carrière, c'est du groupe dont il fait partie. Voilà pourquoi il n'est rien qui ne puisse servir de cause occasionnelle au suicide. Tout dépend de l'intensité avec laquelle les causes suicidogènes ont agi sur l'individu.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et une émission avec vous, Geoffroy de Laguenerie, qui avait choisi de nous parler d'Émile Durkheim, des règles de la méthode sociologique. Mais ça n'est pas un extrait de ces règles de la méthode sociologique que nous venons d'entendre, mais un extrait du suicide. Nous sommes au troisième livre du suicide comme phénomène social en général. Ce livre est paru en 1897, 2 ans après les règles de la méthode sociologique.
Une application, ouais.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est une application. On voit, comme pour le crime, que le suicide, nous dit Durkheim, est un fait social normal. Et il a ces phrases, ce texte. Et incroyable, c'est-à-dire de dire que la collectivité a pénétré en l'individu. Bah, il est triste parce qu'il est triste, mais pas à cause de tel incident, mais parce qu'à cause du groupe dont il fait partie.
Oui.
Ça, c'est. On va revenir quand même sur cette question du déterminisme, parce qu'on a tendance quand même à opposer un individu totalement libre ou alors le déterminisme, la philosophie d'un côté, la sociologie qui nous décrit que des individus sur lesquels voilà, on est pénétré de sentiments collectifs. Est-ce que Durkheim nous dit qu'on peut lutter contre ça ?
Mais déjà, ce qui est très beau dans ce texte, et c'est une théorie qui est un peu oubliée par les sociologues contemporains, c'est que Durkheim a été obsédé par la question du bonheur et de la tristesse. Et une grande thème de sa sociologie, c'est faire une sociologie du bonheur social, et donc à l'inverse d'objectiver les phénomènes de tristesse et de dépression collective, et de penser le projet sociologique comme une théorie du bonheur. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché, avec cette idée qu'en fait, la tristesse n'est pas quelque chose qui nous appartient. C'est pas nous qui sommes malheureux quand on est malheureux, et ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. En gros, les tristesses, les blessures qui nous arrivent, elles ne viennent pas de nous. Elles viennent très souvent d'un état social, d'une socialisation, d'une situation dans laquelle nous vivons et qui nous détermine à être tristes. Que la tristesse nous vient du dehors en quelque sorte, un peu comme Deleuze disait que la mort nous vient du dehors chez Spinoza, et qui fait qu'on a cette espèce de renversement étonnant chez Durkheim qui est de dire c'est pas parce que quelqu'un est triste qu'il suicide, c'est parce que quelqu'un est déterminé à se suicider qu'il est triste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la cause sociale qui détermine la tristesse, qui est en fait une narration subjective, mais pas une cause objective. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah déjà, il y a de la philosophie pratique là-dedans. C'est-à-dire que si vous avez un ami qui est déprimé, par exemple, vous sentez qu'il va mal, bah une des leçons durkheimiennes pratiques, ce serait de dire, en fait, c'est pas en lui faisant la morale que vous le ferez aller mieux. C'est pas en lui disant la vie est belle, c'est pas en lui parlant, c'est pas en le convainquant. Quand quelqu'un est déprimé, en fait, c'est pas des opinions qui vont changer son état d'esprit. Il faut le faire vivre autrement. Il faut changer son milieu de vie. Il faut peut-être le voir plus. Il faut peut-être partir en vacances avec lui. Il faut peut-être qu'il s'intéresse sur ses relations et la manière dont ses relations, sur son travail, etc. Qu'en fait, il faut comprendre l'origine de ses tristesses en dehors de soi, dans les mœurs, dans les pratiques objectives, dans les pratiques quotidiennes dans lesquelles nous sommes prises, beaucoup plus que dans les croyances ou les représentations. Et que, en fait, la meilleure manière de prendre en charge quelqu'un qui est triste, plutôt que de lui en parler, c'est de le faire vivre autrement et c'est de changer ses conditions d'existence. Ce qui veut dire aussi que d'un point de vue politique, évidemment, c'est ça qu'il faut analyser. Qu'est-ce que c'est qu'une société heureuse? Qu'est-ce que c'est qu'une société malheureuse? Et c'est à ce type de politique qu'ouvre la sociologie durkheimienne.
Ce qui veut dire que le fait social ne détermine pas tout. Parce qu'à vous écouter Geoffroy de la Gannerie et à lire Durkheim, on avait quand même l'impression que le suicide nous détermine à... Enfin, les conditions sociales nous déterminent à être tristes, oui, et donc à nous suicider. Il y a une part incompressible de criminalité. On a besoin de la peine, à un moment donné, non moins pour punir quelqu'un que pour rassurer les honnêtes gens. Donc en fait, on est tous pénétrés de ces sentiments collectifs. Oui. Or là... Vous nous dites qu'il y a quand même une manière, non pas de psychologiser, c'est-à-dire de rassurer quelqu'un en disant « tu ne vas pas commettre tel crime » ou « tu n'es pas fondamentalement un criminel, tu as commis ça, mais tu peux t'en sortir » ou « tu ne vas pas déprimer, tu ne vas pas te suicider », mais de dire « on va changer en fait ta structure sociale ». C'est-à-dire il faut réactiver, réinjecter du social dans le social d'une certaine manière.
Oui, et puis il faut se représenter aussi le fait que, si on veut passer un peu sur le déterminisme et la liberté, parce que moi, quand je réfléchis à Durkheim, je me dis, il faut penser que son modèle, c'était les faits naturels, les faits physiques, et qu'il voulait ériger le fait social à la hauteur d'un fait physique. Donc, c'est exactement comme si vous êtes devant votre balcon et vous pouvez vous jeter votre balcon. Vous savez que votre libre arbitre ne changera rien au fait que vous tomberez. D'accord? Donc, ça se situe pas là, le libre arbitre. En fait, la sociologie, elle dit pas qu'il n'y a pas de libre arbitre ou il n'y a pas de liberté. Elle dit pas qu'il n'y a pas de possibilité d'action. Elle décale l'endroit où on peut agir. Donc il y a des endroits où on peut pas agir. Donc il y a des endroits où il y a des morphologies sociales qui fabriquent un certain nombre de forces qui s'imposent aux individus. Par contre, on peut agir sur les morphologies sociales, sur les politiques sociales qui vont fabriquer d'autres courants sociologiques, qui vont donc produire d'autres déterminismes, de la même manière que si vous savez que s'il y a des balcons donnés d'une certaine manière, des gens tombent, bah vous changez la forme du balcon, vous faites des politiques de prévention et les gens tombent moins du balcon.
Donc on va pas leur dire de pas
décaler.
Suicider.
En fait, vous avez juste décalé, ouais, si vous voulez, l'effet du libre arbitre et de l'action. Et c'est ça un peu la science, c'est de savoir à quel endroit est-ce que c'est absurde de vouloir agir et à quel endroit est-ce qu'on peut agir. Je prends un exemple tout simple dans mon livre sur la répression qui est des dégradations dans des villes qui se passaient, des dégradations urbaines qui se passaient dans des quartiers sensibles, comme on dit, Amsterdam. Et à un moment, on a fait des préventions pour dire les bibliothèques c'est votre bien commun, ce genre de choses qu'on fait parfois comme ça. Et puis on a voulu augmenter les peines pour les bandes de garçons, en gros, qui faisaient ce genre de dégradation de nuit. Et puis à un moment, il y a un sociologue plutôt abolitionniste qui a dit, mais en fait, on va plutôt faire ça, on va essayer d'étudier quelle est la structure du quartier et dans quel type de quartier on observe des dégradations de biens publics et dans quel type de quartier on n'observe pas de dégradation de biens publics. Et ils ont constaté que les quartiers où il y avait le plus de dégradation de biens publics, c'est les quartiers où il y a le moins d'équipements municipaux pour les loisirs. Pour les jeunes garçons. Il y a moins de terrains de jeu, il y a moins de terrains de foot, il y a moins d'associations de vie, il y a moins de piscines municipales, etc. Et donc, il a dit, bah, plutôt que punir, on va construire des phénomènes comme ça. Et de fait, on a construit des aires de jeu, des terrains de foot, des associations sportives, etc. Et ça a fait s'écrouler ce type de criminalité. Donc, c'est en changeant le milieu social et pas en faisant la morale aux individus qu'on a changé les comportements sociaux.
Mais ce qui veut dire qu'il y a quand même une part, voilà, de possibilité qui est fondée sur la volonté, sur la responsabilité, c'est-à-dire qu'on peut se dire les faits sociaux ne nous tombent pas seulement dessus comme ça. Il y a quand même des changements qui sont impulsés par la volonté, ce qui veut dire aussi qu'on peut quand même revoir aussi cette part donnée, accordée à l'individu dans la sociologie. Tout n'est pas soit de l'ordre de la psychologie et de l'individualité, soit...
Mais même Durkheim vous dirait... La notion d'individu est une production du monde social.
Ah.
Et l'une des grandes acquis de sa pensée, notamment dans la division du travail social, c'est de dire que l'individualisme est une production de la modernité. Se penser comme un individu, se penser comme doté de libre arbitre, se penser comme autonome par rapport à ses communautés d'appartenance, c'est quelque chose qui naît en gros au XVIIe, XVIe siècle, XVIIIe siècle, qui naît avec la philosophie des Lumières, qui naît avec l'urbanisme, qui naît avec les structures de communication qui se multiplient, qui dégradent les communautés rurales et l'appartenance à la campagne pour des communautés communautés urbaines et qui produisent de l'individualisation. Et même Durkheim va très loin là-dedans parce qu'il dit, contrairement à l'anarchisme, qui pense que l'État est quelque chose de négatif et que l'État opprime les individus, en fait, l'idée très belle de Durkheim, c'est de dire que c'est l'État qui a libéré les individus à travers les droits abstraits, à travers les droits individuels, qui a libéré les individus des communautés d'appartenance préalables comme la famille, comme les communautés politiques, comme la région. Et donc, en fait, l'individualisme contemporain est l'une des formes qu'a pris la modernité, les changements de la morphologie sociale et de structures politiques. Et donc, même la manière dont vous vous pensez comme un individu n'est pas quelque chose qui est en antagonisme avec la société, mais qui est la manière dont on produit de la société aujourd'hui.
Sauf que c'est précisément avec cette construction de l'individualisme que vous, Geoffroy de Laganerie, vous envisagez aussi qu'on instaure, comme vous racontiez quand on a un ami déprimé, lui dire, plutôt dire « ne te suicide pas, tout va bien aller », chose j'imagine qu'on ne dirait jamais comme ça.
Oui, mais bien sûr. Bien sûr
ça paraîtrait complètement hors sol, mais en tout cas sans fonder ça sur la morale ou de la suggestion. Mais par exemple, en sortant avec lui, vous avez écrit « 3, une aspiration au dehors », sous-titre « Éloge de l'amitié ». C'est exactement ça que vous décrivez. C'est-à-dire l'amitié n'est pas fondée en fait sur des grands serments, mais justement sur une redéfinition d'une sociabilité qui laisse la place à l'individualité.
Oui, et surtout de penser que ce qui est très important pour peut-être investir une politique réaliste d'inspiration sociologique, c'est d'attaquer les modes d'existence, les modes de vie pratiques, beaucoup plus que les structures juridiques ou les grands discours. Il y a, dans l'exemple du suicide, Durkheim prend la question de la différence du suicide entre les protestants et les catholiques, et il remarque que les protestants se suicident plus que les catholiques. Or, ce qui est très intéressant, c'est que les catholiques et les protestants condamnent tous les deux le suicide, autant. Et donc, on a la même interdiction, on a la même croyance dans la damnation qui est liée au suicide, et pourtant, on a des taux sociaux de suicide différents chez les communautés protestantes et les communautés catholiques. Et Durkheim dit, en fait, c'est parce que l'organisation du protestantisme est plus individualiste et moins communautaire que la socialisation des églises catholiques et des communautés catholiques. Et donc, comme c'est des sociétés plus individualistes, il y a moins d'intégration sociale, comme il le dit, et donc les protestants se suicident plus que les catholiques. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de comprendre qu'en fait, que très souvent, ce qui détermine les croyances des individus, ce qui détermine leur représentation, c'est pas vraiment leur croyance en vérité, pardon, ce qui détermine leur comportement, c'est pas vraiment leur croyance, c'est leur mode d'existence. C'est la manière dont ils sont socialisés concrètement dans leur vie quotidienne. Et ça ouvre en effet la voie à ce que j'ai essayé de penser dans 3, c'est-à-dire à cette idée qu'en fait, si on veut déstabiliser un peu nos sociétés, voir où sont les zones de conservatisme, peut-être qu'il est plus intéressant de se concentrer sur les modes d'existence concrets que sur les discours que les gens tiennent. Peut-être qu'il est plus intéressant de s'intéresser à l'organisation pratique de nos vies qu'aux lois, par exemple. Est-ce que c'est pas plutôt dans les organisations pratiques que tient la société beaucoup plus que dans les lois? Est-ce que parfois, même en changeant la loi, si on change pas la société, est-ce qu'on change vraiment la société? Ce genre de questions-là.
Mais ça, c'est vraiment fascinant, Geoffroy de Laganerie, parce que vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire la sociologie permet à la politique de décaler la question, mais d'un point de vue, on pourrait dire social, purement social, des mœurs, on se rend compte en fait aussi que la sociologie permet de se dire qu'il y a des modes d'existence, c'est-à-dire des manières de penser, de sentir, d'agir, dont on n'a pas conscience, mais qui nous déterminent pas complètement, puisqu'il suffit aussi peut-être de regarder comment on agit, de dire par exemple où je vis, à quelle heure je me lève, est-ce que j'ai des enfants, quel travail j'ai, pour en fait essayer de décaler ça légèrement.
Absolument, en fait c'est vraiment une idée, là je pense en l'occurrence spinoziste, de la liberté comme supplément de conscience, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on appellera la liberté, c'est de savoir où sont les endroits du déterminisme et où sont les endroits réalistes où on peut agir et pas subjectiviste, et de penser qu'à ce moment-là, il y a des possibilités d'action individuelle, collective, sachant qu'il n'y a jamais d'individu qui prend conscience toujours de quelque chose. On le prend toujours en conscience avec des gens avec qui on parle, avec des
mais
livres
qu'on
lit.
Mais parfois, on ne prend pas conscience de manière... C'est-à-dire que, je ne dis pas qu'on reste dans l'ignorance, mais parfois aussi, en fait, on change sans s'en rendre compte soi-même quelque chose parce qu'on voit que ça se passe autrement ailleurs. Et
C'est vrai.
Alors, juste une question, et après, on va passer à l'autre séquence. Mais dans le texte, je voulais dire ce que je l'ai sous les yeux, dans le texte sur le suicide, il y a il décrit plusieurs types de suicides. Il y a l'égoïste, l'altruiste et l'anomique. C'est quoi l'anomique? Juste pour qu'on ne reste pas sur un nom qu'on ne connaît pas.
Le suicide anomique, c'est le suicide dans lequel on n'a pas suffisamment de règles qui régulent nos désirs. C'est-à-dire qu'on a des désirs illimités, dit Durkheim, c'est le propre de l'homme de vouloir rêver à toujours plus. Et en fait, le problème dans la société, c'est quand tout d'un coup, on n'a pas suffisamment de règles qui vont normer nos désirs et on rêve trop grand. C'est typiquement l'entrepreneur en faillite qui a fait des investissements trop grands et qui se retrouve en faillite parce qu'en fait la société n'a pas régulé ses aspirations et qui a pour conséquence qu'il va se suicider. Ce qui a pour contrepartie, ce qui est intéressant, peut-être encore plus intéressant, c'est l'excès de régulation. C'est-à-dire c'est les individus qui sont trop régulés par leurs aspirations et qui ont le sens cité d'une vie morne parce qu'elle va se répéter. Et ça, c'est la femme mariée qui a un courant suicidogène supérieur à la femme célibataire. C'est le seul cas où la famille augmente le suicide par rapport au célibat. C'est que la femme, quand elle est mariée et quand elle a des enfants, elle a le sentiment d'avoir une vie toute tracée. Elle a le sentiment qu'elle n'a plus d'avenir possible et donc ça augmente le taux de suicide des femmes.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là.
De la Gannerie de Romy Schneider, la chanson d'Hélène, c'est dans les choses de la vie. Bonne ambiance, j'ai envie de dire, pour introduire donc cette séquence de fin d'émission. Vous avez évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie. Place maintenant à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous parvenez à lire, que vous ne parvenez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais que vraiment vous n'aimez pas. Est-ce que vous avez choisi quelqu'un ?
Non, j'ai choisi un continent.
En fait, très ambitieux.
Moi, c'est un continent de la création qui est la fiction. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est vrai, je le dis très honnêtement, depuis que j'ai découvert la sociologie, la philosophie.
Depuis que vous avez
18
ans.
Ouais, en gros,
je veux dire que vous avez une quarantaine d'années, donc ça fait quand même 20 ans que vous ne lisez plus de fiction.
Voilà, je lis jamais de fiction. J'arrive pas à m'intéresser à un personnage, j'arrive pas à m'intéresser à une intrigue. Je me souviens déjà quand j'étais au collège, quand on devait lire des romans, je me souvenais pas des personnages, je devais noter tous les personnages qui étaient la belle-sœur de Berthe, qui était la grande sœur, etc. Parce qu'au bout de 30 pages, j'avais complètement oublié. J'arrivais pas à me rentrer dedans, j'arrivais pas à être ému par une intrigue, j'arrivais pas à être ému par un personnage. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment ça comme pratique, hein, qui comprennent pas que je comprenne pas. Mais moi, personnellement, je suis beaucoup plus ému par une série statistique, je suis beaucoup plus ému par un raisonnement, je suis beaucoup plus ému par la stabilité du taux social des suicides que par une intrigue. Et donc, c'est vrai que la fiction, c'est vraiment quelque chose qui m'échappe totalement. J'arrive pas à lire de romans et j'en lis d'ailleurs jamais.
Mais vous regardez des films?
Oui.
C'est-à-dire que, parce que là, on a l'impression que la fiction, vous n'êtes pas ça, mais voilà, écrite.
Alors, c'est vrai que je définirais un film comme un divertissement. Voilà.
Ah.
Un divertissement de classe, ou comme la série, c'est-à-dire vraiment, et c'est très bien d'avoir, comme la chanson, et j'écoute des chansons, donc je suis tout à fait favorable au divertissement, mais comme expérience de pensée. Si vous voulez, je ne définirais pas le roman comme un endroit où je trouve de la pensée. Et quand je lis, c'est vrai que c'est quand même beaucoup pour lire de la pensée ou pour avoir des pensées nouvelles. Et c'est vrai que moi, je les trouve tellement plus dans la sociologie, l'économie ou la philosophie.
Mais vous pourriez voir aussi la littérature comme une forme d'évasion, c'est-à-dire de divertissement.
Ah oui, mais j'ai pas dit que j'avais raison. J'ai juste dit que c'était comme ça.
Non, mais
je cherche pas trop à défendre mon goût, c'est que c'est juste comme ça. En fait, je suis comme ça.
Alors, est-ce que, justement, on peut dire quand même que la littérature, en ce moment, vous êtes servi avec ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a moins d'œuvres d'imagination, on a plus de l'autofiction, on a plus des récits autobiographiques. Alors là, on est dans le réel. Voilà.
Alors, je pense que c'est un peu faux, comme le dit Édouard Louis dans Que faire de la littérature, qui vient de sortir. On a cette impression-là, parce qu'on met en question la définition de l'écriture contemporaine basée sur la fiction. Mais globalement, si vous regardez, comme il le dit, la plupart des romans qui sortent, vous avez une domination très très grande de la fiction et la valorisation de la fiction par rapport au travail autobiographique, et même la catégorie d'autofiction est une manière de fictionnaliser l'autobiographie pour encore faire croire que c'est pas de la biographie. Et alors que moi, ce qui m'intéresse évidemment beaucoup plus, c'est cette crise de la fictionnalisation et de nouvelles voix qui peuvent exister dans la littérature, comme l'a fait Annie Ernaux, comme le fait Édouard
Louis. Ça vous plaît?
Ça m'intéresse. Ça, je peux le dire, parce que ça, pour moi, ça se rapproche de l'ethnographie, de la sociologie.
Parce que c'est du réel,
et ça m'intéresse beaucoup. Ouais.
Donc vous avez un problème avec l'imagination.
Exactement.
Merci beaucoup, Geoffroy de Laganerie, de nous avoir parlé de Émile Durkheim. pour lire les règles de la méthode sociologique et le suicide, c'est disponible aux éditions PUF. Et pour vous lire, Geoffroy de la Gannerie, eh bien on peut lire par-delà le principe de répression, 10 leçons sur l'abolitionnisme pénal, c'est paru aux éditions Flammarion. Il y a aussi 3, on en a parlé, une aspiration au dehors, éloge de l'amitié, je le recommande, disponible en poche, en champ Flammarion désormais. Et apparaître bientôt, on n'en a pas parlé, mais j'imagine qu'on vous entendra sur le sujet, ce sera en février chez Flammarion, l'âme noire de la démocratie. Encore merci à vous.
Merci beaucoup.
Et un grand merci à Manon Delasselle et Corinne Amar, à Nicolas Berger à la réalisation, à la lecture des textes, à Paul Guigues à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.